Un, deux, un, deux. Voilà, vous devriez m'entendre très prochainement. Oui, c'est bon. Bonjour, bienvenue à ceux que j'ai pas encore vus ce matin. C'est un plaisir pour moi de poursuivre dans cette série sur l'équilibre et ce chant que nous avons chanté. Tout est centré sur Dieu. C'est vraiment l'idée de cette série. J'avais mis comme ça, c'est juste deux slides de résumé. Parce que nous avons commencé cette série la semaine dernière. Dieu a le désir que notre vie atteigne sa cible. Et puis j'avais pris l'exemple d'une flèche que ma femme avait gentiment bricolée pour moi pour expliquer que finalement, notre vie, c'est un peu cette flèche-là et que Dieu nous a préparés, nous a destinés à atteindre une cible. Et finalement, dans chaque journée, on a une cible. On peut demander à Jésus, mais quelle est la cible pour aujourd'hui? Mais en fait, la réalité, c'est que cette flèche a besoin d'être équilibrée. Et puis, j'ai pris aussi l'exemple du centre de gravité pour expliquer l'équilibre. Et puis, je vous avais fait un petit. Voilà, j'avais gardé ma table, mais avec le temps, voilà, je vous avais expliqué que finalement, lorsque le centre de gravité n'est plus dans la surface faite avec les pieds, eh ben, l'objet bascule. Hein, c'est ça l'histoire du centre de gravité. Et de la même manière, lorsque Jésus n'est plus le centre de nos vies, eh ben, on loupe la cible, on est déséquilibré. Donc c'est vraiment l'idée de garder Jésus au centre, mais garder Jésus au centre de tous les domaines de nos vies. Parce que nous ne sommes pas fragmentés, c'est comme ça que je l'avais dit, on ne peut pas juste choisir un domaine de nos vies et puis mettre d'un autre côté, on enlève Dieu. Ben non, parce que toute la flèche va être déséquilibrée. C'est-à-dire que c'est dans tous les domaines de nos vies que nous devons choisir de mettre Jésus au centre pour être équilibré. Donc finalement, être équilibré, c'est vraiment Jésus au centre. C'est cette notion-là de Jésus au centre partout dans nos vies. Et dans cette série, donc, on aborde différents domaines de nos vies afin que le Saint-Esprit puisse rééquilibrer ce qui doit l'être et que rien du tout vienne dominer nos vies, vienne nous détourner ou vienne nous asservir. Alors la semaine dernière, j'ai parlé de la gestion des émotions et ce matin, je vais parler de l'équilibre dans la gestion de mes finances. Wouh! Yes! Bienvenue à tous ceux qui nous visitent, spécialement. Non, mais voilà, c'est le genre de thème qu'on aborde tous les 10 ans. Alors vous avez choisi le bon dimanche. C'est vrai que c'est plutôt rare qu'on aborde ce thème, ce sujet. Pourtant, c'est quand même un sujet qui nous concerne tous et puis qui prend pas mal de place dans nos vies. Et nos rapports à l'argent, ou notre rapport à l'argent peut facilement nous déséquilibrer. La puissance de l'argent peut nous dominer. Et Paul avertira Timothée en ces termes: Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les gens seront égoïstes, amis de l'argent, et puis je saute un petit bout, amis du plaisir plus que de Dieu. Alors il y a énormément de versets dans la Bible qui parlent des riches, et la réalité est celle-ci, il est plus difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous connaissez bien cette image hein, que Jésus utilise, le chameau dans le trou de l'aiguille. Alors bien sûr qu'on est tous, voilà, la plupart des commentateurs hein, disent que le trou de l'aiguille c'était le nom d'une porte dans la muraille de Jérusalem, et pour laquelle il était vraiment difficile de faire rentrer un chameau. Donc il était une porte basse, et il fallait décharger le chameau, le faire courber pour qu'il puisse revenir de l'autre côté. C'est souvent ça. Mais voilà, pourquoi est-il plus difficile d'entrer dans le royaume de Dieu pour un riche? Simplement parce que l'argent nous déséquilibre. L'argent, on s'y attache. L'argent occupe nos pensées. Alors il y a toujours plus riche que nous, hein. Évidemment, il y a toujours plus riche. Mais pour je dirais même une majorité de personnes autour de cette planète, nous sommes ces gens riches. D'accord? C'est nous les riches. OK? Donc regardez pas votre voisin, il me dit, ouais, lui, il a plus que moi. Non, 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 c'est nous les riches. OK? Alors ce matin, je ne vais pas vous dire comment faire un budget, non, non, mais j'aimerais simplement nous inviter, parce que je prêche ce message à moi-même, il y a bien de choses qui m'ont challengé pendant que je préparais ce message, j'aimerais nous inviter à avoir une compréhension plus équilibrée des enjeux liés aux finances, et puis peut-être, pourquoi pas, si le Saint-Esprit nous bouscule à ce point, réadapter notre manière de vivre. Alors c'est vrai, juste en énonçant le thème, il y a eu des réactions. Hein. Certains ont eu une émotion de surprise. Si vous vous souvenez de la semaine dernière, 6 émotions dans la surprise. Ils parlent de l'argent, voilà. D'autres ont vraiment eu peur. Oh, ça fait peur. Alors, acceptez votre émotion, hein, acceptez, exprimez-la, et puis répondez de la bonne manière, d'accord? Ça, c'est le résumé de la semaine dernière. Non, mais ne vous inquiétez pas, je ne prêche pas la prospérité, et je ne manipulerai personne, vous vous en pleurez ou culpabilisez pour que vous donniez plus à la fin de ce culte. Donc, soyez détendus, rien de tout ça ici. Il semblerait que même Benny Hinn, pour ceux qui connaissent, vient de se repentir et dit que quand même la prospérité, ce n'est pas si bien que ça. Alors, on attend de voir le changement. Voilà. Mais comme je l'ai dit, la réalité, je parle vite ce matin parce que j'ai beaucoup à dire. Hein. Alors accrochez-vous, d'accord? Non. Je vais essayer. La réalité, c'est que la Bible parle donc largement d'argent. C'est même assez impressionnant. Et Jésus parle, lui, il a aussi beaucoup parlé d'argent. Et dans, parmi les 38 paraboles qu'il a données, il y en a 11 qui touchent le domaine de l'argent et du matérialisme. Pas mal. Donc pourquoi nous, on n'oserait pas de temps en temps en parler? Ça fait partie de la Bible. Alors, on va prendre justement une parole de Jésus, une rencontre qui est dans l'évangile de Luc et qui nous est rapportée que dans l'évangile de Luc. C'est au chapitre 12, les versets 13 à 15. Ça va, vous êtes avec là, avec moi? Même si on parle des finances, c'est bon? Ok. Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Amen. Alors cet homme vient vers Jésus, il est complètement pris par la soif de posséder. Hein, selon la loi, c'est le fils premier-né qui doit recevoir une part double de l'héritage. Alors est-ce que là, il n'a pas reçu sa part? Possiblement qu'il y a un problème. En tout cas, on sait que les héritages, c'est un des conflits très présents dans les familles, encore aujourd'hui. Il y a des familles qui se divisent là-dessus. Alors il y a les grands scandales dans les médias avec, je sais pas, Johnny Hallyday ou des choses comme ça. Mais à plus proche de nous, je vous assure qu'il y a des familles qui se divisent à cause de ça. Alors à cette époque-là, on allait souvent voir le rabbin pour régler des disputes. Mais ce n'était certainement pas pour ça que Jésus était là. On peut imaginer aussi un petit peu le contraste entre cet homme qui vient pour ça vers Jésus et puis cet aveugle comme Bartimée qui voit Jésus puis qui va crier « Mais fils de David hein, !» Si on prend des différences comme ça, on dit « Mais voilà, il y a des hommes qui ont crié tout leur espoir en pensant à Jésus, en entendant parler qu'il y avait Jésus. Mais Jésus, fils de David, fais quelque chose pour moi !» Et puis lui, il vient pour une histoire d'héritage. Donc on commence à comprendre qu'est-ce qu'il y a dans son cœur à ce gars-là. Et c'est une réalité que le matérialisme ambiant nous enferme. Et Jésus donne cette première affirmation, notre vie ne dépend pas de nos biens. Amen. Puis, à la suite de ce texte, Jésus va raconter une parabole que je vais aussi vous lire d'une manière un petit peu différente ce matin, parce qu'il semblerait que c'est tellement bon d'être comme des petits-enfants que Papa Luc va vous lire une petite histoire. D'accord? Ça va aller? Vous verrez, c'est bonnard. Mais pour parler des sujets d'argent, des fois, mieux vaut être comme des petits-enfants. On prend les choses tellement plus simplement. OK? Alors, voici un fermier très riche. Il est riche parce que son sol est riche. Le maïs, il pousse plus vite qu'ailleurs. Et puis, en plus, le maïs, il pousse aussi plus haut qu'ailleurs. C'est merveilleux. À l'époque de la moisson, c'est lui qui a la meilleure récolte. Ah, mais quel homme heureux! C'est super. Et cette année, il a tant de maïs que sa vieille grange n'y suffit plus. Elle est pleine à craquer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il se dit, bon, c'est pas grave. Je vais la démolir. Puis je vais en construire une autre, plus grande. Comme ça, l'année prochaine, je serai assez riche pour mener une vie heureuse. Alors, aussitôt dit, aussitôt fait. Mais lors de la moisson suivante, la nouvelle grange ne peut elle non plus contenir toute la récolte. Le fermier, avide, avait planté davantage de maïs. et des carottes en plus. Aïe, aïe, aïe. Mais ce n'est pas grave, dit le fermier. Je construirai une grange encore plus grande et toute moderne. Ainsi, l'année prochaine, je serai plus riche encore. Je pourrai alors vraiment profiter de la vie. Aussitôt dit, aussitôt fait. C'est bon, vous suivez. Mais à l'époque de la moisson suivante, même son immense grange, toute moderne, n'y suffit pas. Une fois encore, le fermier avait planté trop de maïs, trop de carottes et quelques choux en plus. C'est chou, hein. Alors, le fermier, il se dit encore une fois, « Ouh, je vais construire la grange la plus grande, la plus moderne du monde. Alors, je serai tellement riche que jamais plus je n'aurai besoin de travailler. » Ah, c'est trop une bonne idée, ça, hein. Alors, la grange qu'il bâtit touche le ciel. Elle a comme une image de cathédrale, hein. Ça touche le ciel. Et quand elle est terminée, le fermier pousse un profond soupir de soulagement. Ah, il est satisfait. Demain, se dit-il, je vais rentrer la récolte et après je pourrai enfin jouir de la vie. Tiens, j'ai une idée. Je vais faire une grande fête. Hé hé hé. Mais c'est justement cette nuit-là qu'il meurt. En plein sommeil. C'est une catastrophe, hein, ne pas raconter aux enfants. Les oiseaux mangent son maïs. Les lapins grignotent ses carottes et ses choux montent en graines. L'immense grange reste vide et jamais le riche fermier ne jouit de son argent. Pauvre homme. Jésus dit, il est bien bête celui qui passe sa vie à amasser des biens pour lui-même. Aux yeux de Dieu, c'est un pauvre homme. Quelques amen ce matin. Voilà. Quelle histoire, quelle histoire. On voit dans cette histoire que cet homme, il est béni. Il n'a rien fait pour avoir tout ça. Ce n'est pas lui, c'est son sol qui est riche. L'histoire le précise, c'est son sol. Le maïs, il pousse super bien. Puis il bâtit plus grand pour mettre plus. Et là, il est pris dans l'engrenage. Chaque fois, il prend plus, il prend plus, il veut plus. Hein, puis il plante plus. Il plante trop même, le livre nous le dit. Et puis il dit à son âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Maintenant, tu vas pouvoir te reposer, tu vas pouvoir manger, te réjouir. Ah, mais c'est lui, c'est, je vais me reposer, je vais jouir de la vie, je vais ne plus travailler, je serai le plus riche. Il est égocentrique, il ne pense qu'à lui-même. Et Dieu lui dit, ben, c'est un homme dépourvu de bon sens ou un insensé. Et cette nuit-là, ton âme te sera redemandée. Alors la seconde affirmation de Jésus au travers de cette histoire, c'est celui qui amasse des richesses pour lui-même est pauvre devant Dieu, c'est un insensé. Alors la Bible parle d'insensé. L'insensé, c'est celui qui ne reconnaît pas la dimension de Dieu et la possibilité de Dieu dans sa vie. Cet homme amasse pour lui-même. Mais que l'on meure riche ou pauvre, bah, vous êtes d'accord que ça n'a aucune importance. C'est vrai, non? Vous êtes conscient de ça? Ça n'a aucune importance. Hein, finalement, même si vous n'avez pas d'argent, quelqu'un va pourvoir à votre cercueil, vous savez. Vous pouvez faire incinérer, il paraît que c'est moins cher. Bon, ça ne change rien. Ce fermier, il passait peut-être ses nuits à imaginer sa nouvelle grange. Il passait du temps à imaginer, à construire, à faire ses plans. Waouh ! Mais il n'a même pas eu le temps de profiter de la vie. Il a investi à la mauvaise place. Donc, mieux vaut être riche aux yeux de Dieu que posséder beaucoup aux yeux du monde. Alors, il y a clairement un déséquilibre lorsque notre vie semble dépendre de nos biens. Il y a un déséquilibre lorsque je cherche à avoir toujours et toujours plus, pour moi-même, lorsque je cherche à être riche selon ce monde. Peut-on affirmer pour autant que l'argent est mal? Non, on ne peut pas affirmer ça. La puissance de l'argent peut donner la vie ou la mort. Si l'argent n'est pas mal en soi, ça peut le devenir. Donc de nouveau, c'est une question de cœur. Lorsque Jésus n'est pas au centre de nos finances, il y a déséquilibre. Donc ça devient quelque chose qui peut être pernicieux. Paul dira encore ceci à Timothée. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Alors, j'ai identifié peut-être trois sources de déséquilibre liées à l'argent. Et le premier, effectivement, c'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent va vraiment nous amener dans un déséquilibre grave. Donc, ce n'est pas l'argent à proprement parler, mais c'est ses effets. Ça provoque la ruine, la perte, les tourments. Hein, certains vont dire, plus on en a, plus on a de problèmes. Parce qu'il faut réfléchir comment protéger cet argent, puis comment l'investir, et puis, hein, puis on a peur de le perdre, etc. Donc, l'argent risque fortement de nous égarer loin de notre cible. On peut aussi bien sûr penser à l'histoire du jeune homme riche qui demande à Jésus comment hériter de la vie éternelle. Puis Jésus va lui dire qu'il faut respecter les commandements. Puis il dit, ah, mais ça je le fais depuis toute mon enfance, hein. Ça c'est ok ça Jésus, pas de problème. Puis il dit, Jésus voit son cœur, hein, puis lui dit, alors vends tout ce que tu as. Puis là, le gars il part tout triste, hein, parce qu'il avait de grands biens, la parole nous dit cela. Donc il était tellement attaché à ses richesses, il aimait son argent, qu'il n'a pas pu suivre Jésus. Il a manqué la cible. Si ce matin je vous dis, qui aimerait ce billet de 100 francs? Franchement, soyez honnête, qui aimerait ce billet de 100 francs? Il n'y a rien à faire. Ok, on est vrai. Ben bien sûr qu'il y a des mains qui se lèvent, évidemment. Hein? Après. Ok, j'ai pas encore dit que tu peux l'avoir. Non mais c'est vrai, qui n'est pas intéressé? Est-ce qu'il y a vraiment des gens pas intéressés? Je ne pense pas qu'il y a des gens pas intéressés. Alors peut-être que vraiment, il faut que je monte les enchères et puis que certains ils vont se réveiller à partir de 10 000 et puis dire « Ouais, 10 000, là quand même, je suis intéressé. » Je ne sais pas quelle est votre porte-monnaie. Mais logiquement, on est intéressé. Alors, on ne se dit pas qu'on est amoureux de l'argent. Hein. Personne ne va dire ici, je suis sûr, si je demande « Oh non, moi je ne suis pas amoureux de l'argent, pensez-vous. » Non, mais avouons quand même qu'on l'aime bien cet argent. Sérieusement. Je suis tout seul ou bien? Non, bon. Et puis en plus, on pense toujours en avoir besoin, on désire de l'argent. Avec l'argent, on peut acheter, on peut posséder, enfin, il y a toujours quelque chose à faire avec de l'argent, franchement. Moi, j'aime bien parfois regarder les journaux de publicité. Il y en a qui mettent plus de pubs, mais il paraît que c'est même bien de mettre la pub, parce que si jamais c'est des gens avec des limitations intellectuelles qui préparent les publicités, si jamais. Alors, pour qu'ils puissent faire ce travail, c'est bien de laisser la pub dans vos boîtes aux lettres, au passage. Mais donc, des fois, je regarde, ça me détend, moi, de regarder les publicités. Voilà. Je rentre le soir après une bonne séance de conseil et je regarde les publicités. Bon. Pas trop longtemps. Voilà. Mais c'est incroyable le nombre de trucs qu'on pourrait acheter ou qu'on aurait envie d'acheter quand on regarde ces publicités. Hein, c'est toutes des choses, pour la plupart, qu'on peut facilement se passer, hein, on vit bien sans, mais quand même, on est poussé à la consommation, il y a toujours quelque chose, on pourrait facilement entrer dans l'engrenage. Puis après, hein, ben, chérie, ce serait quand même pas mal ce truc-là, tu es quand même d'accord, et puis, oh, puis ce serait quand même nettement plus pratique, et puis plus joli. Oh, puis voilà, on achète. On n'en a pas vraiment besoin, mais on nous crée le besoin. Et on achète un petit peu comme des insensés de temps en temps. Donc avec l'argent, nous désirons posséder, on désire avoir plus. Et puis petit à petit, nos pensées sont habitées par le prochain achat. Hein, moi, je suis en train de me dire, ah ouais, ma voiture, elle commence à être un peu trop petite avec 5 enfants quand même. Puis ça occupe mes pensées, cette histoire-là. C'est incroyable. Donc je pense à la prochaine voiture, mais peut-être certains vont penser à leur prochaine télé HD, curve, 1m80, je sais pas quoi. Je sais pas à quoi vous pensez, mais ça occupe nos pensées. La consommation, le prochain achat vient dans nos pensées. Alors que, je vous remets directement sur Terre, il y a 1,4 milliard de personnes qui vivent avec 1,25 $ par jour. Ça, c'est la réalité. Et puis nous, on est en train de penser toujours à plus, toujours à notre prochain achat. Est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre à quelque part? Il y a un déséquilibre lorsque, dans notre rapport à l'argent, ça commence à affecter nos désirs, nos pensées. L'amour de l'argent. Deuxième source, c'est le droit et pouvoir. Ceux qui paient peuvent passer ici plus vite. Ils n'ont pas besoin de faire la file. Super. Il faudrait que j'y pense pour la prière. Hein. Si vous payez, vous allez plus vite. Non. Bon. On prend bien soin de ceux qui ont payé plus. On leur offre un petit verre de champagne, par exemple. on est à l'écoute de leurs besoins. Et puis s'ils font une réclamation, ils seront automatiquement mieux considérés que toi et moi. Et eux-mêmes peuvent parfois se considérer de manière assez condescendante, pas tous bien sûr, mais certains vont même frimer, et puis ils sont fiers. Moi je les voyais quand j'ai été caissier à Aligro, et ben, ceux qui sortaient leur liasse de billets puis qui payaient 2500 francs cash, même si ce n'était pas leur argent, c'était de l'argent du bistrot, hein, ben, je peux vous dire qu'il y avait une certaine attitude quand ils sortaient leur liasse. C'était quelque chose. Mais voilà, vous avez tous fréquenté des aéroports. Ça, c'est ce qu'on voit en prenant l'avion. C'est vrai. Non, ben, on dirait que vous n'avez pas pris les mêmes aéroports. Peut-être que vous êtes en first, je ne sais pas. C'est pour ça. On ne s'est pas croisés. Hein. Mais regardons le message qui nous est envoyé. Avec de l'argent, on obtient des droits. Et on a plus de pouvoir. Alors même si on se défend d'aimer l'argent, au fond de nous, ça ne nous dérangerait quand même pas d'être à leur place. Franchement, un petit vol business, un petit verre de champagne, éviter la file, moi ça m'intéresse. Alors bien sûr, là vous êtes tous en train de dire, non, l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent ne fait pas le bonheur. Luc, voyons quand même. Bon, parfois, on aimerait bien l'avoir ce champagne, puis peut-être qu'on aimerait bien que ce soit les autres qui posent un regard admiratif sur nous, en disant « il a réussi ». Et c'est justement la troisième source de déséquilibre, c'est l'identité. Celui qui a de l'argent, justement, on va dire « il a réussi ». Il est quelqu'un d'important. Et ce qui est malheureux, c'est qu'il suffit d'avoir l'apparence de la richesse pour avoir l'impression d'être important. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens recherchent cela au travers des biens matériels. Même si, quelque part, ils n'ont peut-être pas le porte-monnaie qui suit. Hein, puis il y a l'endettement qui va être là, mais parce que l'apparence de la richesse va suffire. Ils vont exister au travers de ce qu'ils ont. Ils se sentent regardés, ils se sentent importants. Mais ils ne sont plus vraiment eux-mêmes. Ils ont perdu probablement le but pour lequel ils ont été créés. Une fois qu'on entre dans ce jeu, en plus, on devient esclave de ce jeu-là. Parce que si tu commences à avoir un rythme de vie effréné comme ça pour montrer, pour avoir une certaine prestance, etc., ben il va falloir le maintenir. Et puis là, on est dans un engrenage, une spirale négative. On ne veut pas perdre notre réputation. Et puis, ça devient notre priorité, ça devient notre raison de se lever le matin. Il faut qu'on ait de l'argent, il faut qu'on ait de l'argent parce que je veux être là. Au milieu de tout ça, ce qu'on peut remarquer, c'est que ceux, c'est peut-être étonnant, hein, mais ceux qui ont le moins d'argent, en veulent toujours plus. Et puis, ils sont dévorés par ce désir de posséder. Parce qu'il y a comme une, peut-être une sorte de frustration. Quelque chose, on en veut plus parce qu'on en a moins. Puis ceux qui ont tout, hein, ceux qui ont beaucoup, ben, eux, ils sont beaucoup plus tentés par la soif de dominer. Ça, c'est une réalité. Et pour les uns comme pour les autres, s'ajoute à cela la peur de manquer, la peur de perdre nos biens, la peur de perdre nos sécurités. Et ça, c'est très fort en Suisse. Hein, vous le savez, je ne vous apprends rien. Mais là aussi, plus on a d'argent, plus on a peur. On s'y accroche au point que l'on pourrait tomber dans l'avarice. Dans tous les cas, ça il faut le dire aussi, Satan utilise ce désir de posséder, la soif de pouvoir, l'orgueil et la peur de manquer pour asservir financièrement les hommes. Lui, il utilise ça. Ce n'est pas l'histoire de dire qu'il y a deux camps et puis tout est mal dans l'argent. Non, mais Satan utilise ça pour nous tenir captifs, pour nous tenir dans ce déséquilibre. Et Jésus va aussi dire ceci. Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Alors une des questions ce matin que j'aimerais vous laisser, c'est qui sert qui ? Quelle place, quelle influence a l'argent dans ma vie? C'est de nouveau une question de cœur. Tout dépend de la place de Christ, finalement, dans ce domaine. Sommes-nous au service de l'argent? Sommes-nous asservis par la puissance de l'argent? Ou est-ce que l'argent est un outil pratique qui est au service de Dieu? Est-ce que Jésus est au centre de mes finances? Vous êtes encore avec moi? J'aimerais vous proposer quatre pistes pour retrouver l'équilibre dans ce domaine. quatre R pour faciliter, que vous puissiez vous en souvenir. La première chose, c'est reconnaître. La première chose, c'est de reconnaître que Dieu est celui qui pourvoit, que tout vient de Dieu. Tout ce que la terre contient est à lui. C'est le psaume 24. La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. Agé 2.8 nous dit, c'est à moi qu'appartiennent tout l'argent et tout l'or. Tout ce qu'on a nous est confié, mais c'est à lui. Tout est grâce. Il est celui qui pourvoit. Que ce soit peu ou beaucoup, ça lui appartient. Ce n'est pas mon argent, ce n'est pas mes biens. Et ça, ça commence à changer déjà un petit peu notre mentalité, notre manière de voir les choses et de gérer notre argent. Ok, j'ai envie d'être un intendant fidèle. J'ai envie de collaborer avec Christ. Ce n'est pas mon argent, il me le confie. Alors, qu'est-ce que je vais en faire de cet argent-là? Ça change un petit peu le niveau de responsabilité peut-être. Deuxième R, ce serait renoncer. Et je crois qu'il est important d'apprendre à renoncer à nos droits et à nos revendications. Hein, souvent on dit « Ah mais c'est pas juste !»« Ah mais quand même, je mérite !»« Puis je mérite plus !» Renoncer à vivre comme le monde. « Ah mais tout le monde a ça !»« Mais ça c'est normal, ça c'est la base !»« Pourquoi moi j'ai pas ça ?» Puis là on devient dans la revendication. Peut-être c'est aussi renoncer à gérer nos ressources sans l'aide du Saint-Esprit, sans la direction du Saint-Esprit. Je renonce à gérer par moi-même. Je renonce aussi à ma propre gloire, hein, comme si tout ce que j'ai, c'est mon mérite, c'est le fruit de mon travail. Non, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui t'a donné ce travail. C'est Dieu qui a la source. Puis c'est peut-être aussi, à l'inverse, c'est renoncer aux impossibilités humaines. Parce que parfois, c'est vrai, on peut dire, Dieu m'a mis ça à cœur, mais j'ai l'impression que les finances manquent. Mais peut-être c'est aussi renoncer à dire que c'est impossible parce qu'il manque de l'argent. C'est aussi dire non, il pourvoit, il donne, c'est lui qui est maître. Alors s'il me confie quelque chose, s'il me donne un rêve selon son cœur, selon sa volonté, je peux aussi renoncer aux impossibilités et pleinement croire qu'il est celui qui pourvoit. Ça va ? Troisième chose, c'est redonner. Le point peut-être le plus important sur lequel je vais m'arrêter un petit peu plus longuement. Parce que je suis persuadé que pour revenir à l'équilibre, pour garder un bon équilibre, nous devons redonner de nos ressources, partager. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on redonne ? Lorsque je donne de mon argent, de mes biens, je reconnais justement qui est Dieu. Ce n'est pas les miens, ils sont à Dieu. Et puis ça veut dire aussi que je lui fais confiance. Je ne garde pas tout pour moi parce que j'ai peur de manquer. Non, je donne parce que je crois que tu es celui qui pourvoit. Dieu, il est toujours bon. Ce n'est pas « je vous donne un jour, puis je ne vous donne plus ». Il donne toujours. Il donne toujours, il est bon. Donc il ne va pas s'arrêter, il n'y a pas besoin d'avoir peur. On peut lui faire confiance. Donc c'est une marque de confiance. Et puis c'est aussi une façon de dépendre de lui. Ce n'est pas moi qui gère, mais je dépends de toi. Ce n'est pas ma sécurité financière qui fait que je suis en paix, mais je dépends de toi, alors je peux donner. C'est toi qui es ma paix. C'est aussi une marque de foi. Parce que ça veut dire qu'on justement lui fait confiance, que c'est lui qui pourvoit. En donnant aussi, on renonce à nos désirs. C'est pas mes trucs en premier, mais c'est qu'est-ce que toi tu veux faire avec cet argent que tu me confies. On va se mettre à l'écoute de l'esprit pour que l'argent soit au service de Dieu, qu'on inverse la vapeur. Donc on détrône Mammon hein, qui voudrait nous faire chuter, on détrône ce Dieu de l'argent qui voudrait nous garder dans le déséquilibre. Et en redonnant, on devient bien sûr une source de bénédiction. Ça, c'est génial. On nourrit le pauvre. On agit pour la justice. Donc finalement, on va non seulement équilibrer une réalité, un domaine de nos vies tellement important, mais à quelque part, on va équilibrer les ressources de manière plus globale. Ça, c'est aussi important. Il y a une notion de justice là derrière. Alors bien sûr, je ne peux pas aborder ce thème sans parler rapidement, je pourrais faire un prêche, du principe de la dîme. La dîme, c'est redonner les premiers 10% de ses revenus. Et ça, c'est le moyen peut-être le plus simple pour donner à Dieu. En réalité, ces 10% lui appartiennent. Et je ne l'ai pas mis, hein, parce que ça me faisait un peu... Mais Lauren Cunningham, fondateur de GEM, va même dire « Celui qui ne donne pas ses 10%, c'est un voleur. » Pas mal, hein? Ça fait « Salut, va bien, ça va. » Waouh! Moi, je ne veux voler personne. Je vole personne tous les jours. Je n'ai pas commencé à... Je ne vole pas Dieu, quand même. Waouh! Il dit « Ces 10%, ils sont à Dieu. Si on ne les donne pas, on est un voleur. On vole Dieu. » Alors, beaucoup vont dire « Ah, mais ça, c'est la loi. » Puis maintenant, on n'est plus sous la loi. Ce n'est pas la question de la loi ou pas, parce que vous savez que la dîme, Abraham a apporté sa dîme. Genèse 14, c'était avant même l'établissement de la loi. Donc, ce n'est pas une question de loi ou pas loi. D'accord ? La dîme est un principe pleinement biblique qu'on peut encore aujourd'hui appliquer. Mais je le mets comme ça. Donner sa dîme devrait être un acte de reconnaissance, d'adoration et de foi. On donne à Dieu les prémices, les premiers meilleurs fruits de notre travail. On reconnaît que la bénédiction vient de lui. On lui fait confiance. C'est ça qui devrait nous habiter alors qu'on donne la dîme. Et j'aimerais vous dire que moi, je ne suis pas là en train de vous dire comme ça. Parce qu'en fait, je veux juste vous faire un petit témoignage de comment moi, j'ai compris les choses, comment je l'ai vécu. Moi, je n'ai jamais appris à donner ma dîme. Personne ne m'a appris ça. Et à l'école du dimanche, hein, on avait de temps en temps une crousie, je ne sais pas comment on appelle ça en vrai français, tirelire, merci. Hein, on pouvait mettre un petit sou, voilà. Puis moi, j'allais chercher vers mes parents 2 francs. Puis ils me donnaient 2 francs pour l'école du dimanche. Mais ce n'était pas mon argent, c'était le leur. J'ai jamais appris ça. Et puis, j'ai donc jamais appris à donner de manière régulière. J'ai pas appris ça. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, ah, mais quand même, la dîme, ça me semble un petit peu pas tout à fait équitable. Parce que celui qui gagne 3500 francs ou celui qui en gagne 15 000, ben, la dîme de 15 000, ok, c'est un gros montant, mais il lui reste encore 13 500 francs. Ok? Ça va. Mais celui qui donne 350 francs sur 3500, ben, il est un peu juste quand même. Alors je dis, mais Seigneur, quand même, j'avais de la peine à comprendre ça. Et puis, moi je peux vous dire que jamais au travers des années, j'ai comme senti une pression venant du Saint-Esprit, il faut que tu donnes ta dîme. Jamais j'ai senti ça. Mais j'ai l'impression qu'il a cheminé avec moi, à mes côtés, dans mes réflexions. Et il a fait son œuvre. Et lorsque nous sommes partis nous former au Québec avec Damaris, ben, en bon Suisse, on avait quand même ce souci de l'argent. Comment on va faire? On va partir les deux, vivre au Québec. Et puis, on a, c'est vrai, en bon Suisse aussi, quelques économies. Mais c'est tout. On n'aura pas de travail, on n'aura pas d'entrée. Aurions-nous assez d'argent? Et puis, il nous a rassurés avec ce passage de Matthieu 6, que tout le monde connaît, hein, ne vous inquiétez de rien, que ce soit le vêtement, le manger, voilà. Tout ça, c'est moi qui donne, hein, l'image de la plante, enfin de la fleur, et l'herbe des champs, les oiseaux, etc. Il nous a rassurés avec ça. Et puis, il y avait vraiment cette conviction de vivre normalement. Vivez normalement, je pourvois. Et ça, c'est quelque chose qui nous habite toujours aujourd'hui. Vivez normalement. Vivez. Arrêtez de vous poser 1000 questions. Vivez, faites-moi confiance. Je suis là. Et il a pourvu, c'est vrai, de manière miraculeuse. Et dans ce temps d'étude, c'est là que nous avons fait notre plus gros don. On n'avait jamais fait ça. On a donné un gros don, une bonne partie de nos économies touchées par l'esprit. Puis je ne dis pas ça pour que vous nous dites bravo ce matin, mais c'est pour dire le processus. On a commencé nous a appris à lâcher prise, à faire confiance. Puis là, à un moment donné, il nous dit, maintenant, faites un don. Dis, oui, mais ok, tu pourvois. Ok, on va manquer de rien. Mais là, quand même. Tout ce qu'on a, c'est nos économies, puis tu veux qu'on donne une bonne partie de nos économies, t'es sûr. Je peux vous dire que cet argent ne nous a pas manqué. Pas du tout. Et puis, depuis ça, Dieu, depuis là, on a toujours se dit que ça ne sert vraiment à rien de s'inquiéter. Puis par la suite, j'ai compris que ce 10% pouvait être du nécessaire pour quelqu'un, mais ça pouvait être aussi du surplus pour les autres. J'ai compris que la notion de générosité, en fait, elle dépasse largement le 10%. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui a 3500 francs, ben, donner son 10%, waouh, c'est pas rien. Mais qu'en fait, le Nouveau Testament nous dit, mais donnez avec un cœur généreux, soyez généreux. Et je crois pleinement que lorsqu'on conduit par l'Esprit, on ne compte plus, lorsqu'on ne calcule plus, mais qu'on est simplement généreux, ben en fait, on va donner bien au-delà de notre dîme et qu'on atteint la bonne cible, celle que l'Esprit nous montre. Donc j'ai compris qu'en fait, ce 10%, ben, oui, c'était une base, mais c'est pas, le but, ce n'est pas le 10%. Le but, c'est ton cœur, c'est la générosité de ton cœur. Et puis j'ai compris encore plus tard l'importance d'être régulier, d'y mettre une priorité. C'était vraiment mettre Dieu au centre de mes finances en étant régulier. Alors j'ai commencé à être régulier, puis je pense que je n'avais pas 10%, mais j'étais régulier. Ça a déjà fait un travail dans ma vie, parce que j'étais régulier. Et puis j'ai continué à cheminer comme ça. Alors j'expérimente que lorsqu'on donne avec un cœur généreux, on ne manque de rien. Et ça, c'est vraiment miraculeux. Et aujourd'hui, moi, j'ai la joie de pouvoir contribuer, donner, bénir. Hein. Moi, quand je peux donner de l'argent, mais quel cadeau! C'est génial, je peux donner. Et puis, ce qui est fou, c'est que parfois, on me donne aussi. Et puis, il y a des vases communicants, finalement. On donne parce qu'on écoute. Et puis, quelqu'un d'autre va nous donner aussi. Moi, j'ai vécu ça à Genève. Le Saint-Esprit me dit de donner 200 francs à quelqu'un. Puis là, j'étais en stage, 3 enfants déjà, un salaire de stagiaire, 200 francs, je vais aller chercher où? Bon, je prends on peut dire que c'était les derniers 200 francs qu'on avait, quoi. Je vais les tirer sur le compte. Et puis, le même jour, donc je donne cette enveloppe à la personne que le Seigneur m'avait montrée, le même jour, une gentille grand-maman que je bénirai jamais assez, me dit, j'ai 200 francs pour vous. Le même jour, elle me donne 200 francs. C'est pas incroyable. Donc j'obéis au Saint-Esprit, puis oui, ça me coûte, mais je le fais avec joie, je sais que c'est juste. Et puis de l'autre côté, je reçois 200 francs. Donc j'aimerais nous encourager, parce que je dis, je suis sur ce chemin, nous sommes tous en route, à donner notre dîme avec joie, et à nous laisser inspirer par le Saint-Esprit pour le reste. Et vous verrez que c'est une aventure. Comme tout est aventure avec Jésus, eh ben c'est génial de cheminer dans ce domaine-là. Ok, j'avance, je suis presque au bout. Tu es d'accord avec moi? C'est bon? Alors, vous avez quand même le quatrième R, hein, parce qu'autrement, ça, il manquerait quelque chose. La quatrième chose, c'est réadapter. C'est la dernière étape qui a pour but de réadapter notre manière de vivre, nous amener à un changement. Puis là aussi, deux versets du Proverbe 30 qui dit « Je te demande deux choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et le mensonge. » Elle ne me donne ni pauvreté ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Et il y a ici vraiment une notion d'équilibre. Ne pas rechercher la richesse, mais vivre avec le nécessaire. C'est un petit peu comme la manne. Hein. Certains prenaient plus, d'autres moins, mais ils avaient tous ce qui était nécessaire à leurs besoins. Ils en avaient assez. Alors on pourrait se demander, assez c'est quoi ? Le nécessaire, c'est quoi? Assez, c'est combien? Concrètement, dites-moi. Eh bien, le nécessaire, c'est pouvoir vivre de manière décente, pouvoir vivre de manière juste. Je peux pas vous donner un chiffre, mais j'aimerais juste nous encourager ce matin à réfléchir sur ce que nous avons réellement besoin pour vivre. Qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce qui m'est nécessaire? Vous pouvez vous amuser peut-être à faire le calcul, à regarder. Vraiment, en termes de coût. Mais en fait, si on ne sait pas ce qui nous est nécessaire, nos désirs et nos besoins vont s'adapter à la hausse de nos revenus. Finalement, si je n'ai jamais défini qu'est-ce qui m'est nécessaire, chaque fois que j'ai plus, je vais dépenser plus, je vais acheter plus, mais j'ai plus. Si je ferme la boucle puis je dis voilà ce qui est nécessaire, tout ce qui vient en plus peut être réinvesti de manière juste. Alors pourquoi ne pas continuer à vivre avec le nécessaire et faire autre chose du superflu? En parlant de la collecte faite à Jérusalem, Paul va dire encore ceci, « Dans la circonstance présente, par votre superflu, vous pouvez venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Aussi, par leur superflu, ils pourront un jour subvenir à vos besoins. Ainsi s'établit l'égalité. » Suivant cette parole de l'Écriture, celui qui avait ramassé beaucoup de manne n'en avait pas de trop, et celui qui en avait ramassé peu n'en manquait pas, justement. Voilà un principe d'égalité. Elle est là, la notion d'équilibre. Donc ce n'est pas juste un équilibre pour nos biens à nous, mais c'est un équilibre qui touche la justice sociale. Imaginez juste quelques instants, je rêve, si nous, chrétiens, commencions à proposer un modèle alternatif, différent. Est-ce qu'on pourrait imaginer ça? Est-ce qu'on pourrait le vivre? Waouh! Mais serions-nous prêts à renoncer à un certain mode de vie pour tester autre chose? Ça, c'est la vraie question. Puis là, je m'inclus complètement. Est-ce que vraiment je suis prêt à renoncer à des choses, peut-être vivre dans un endroit plus petit, partager certains services, partager une voiture, pour avoir un superflu que l'on va pouvoir redistribuer ensemble? L'enjeu est grand. Et ce matin, j'aimerais juste qu'on se laisse interpeller. On n'aura pas de réponse, on ne va pas faire un débat maintenant. Comment on pourrait faire? Mais j'aimerais bien que le Saint-Esprit continue, il va continuer son œuvre. Vraiment, qu'on puisse réfléchir. Moi, je ne parle pas juste là en termes d'individus, je parle aussi en termes de communauté, l'ensemble que nous formons. Est-ce qu'il y a quelque chose que le Saint-Esprit aimerait nous dire? Alors cette fois, je termine vraiment, mais je termine avec deux citations quand même. Celle de Clément d'Alexandrie, père de l'Église du IIIe siècle, qui a dit, déjà au IIIe siècle, hein, il dit « Tous les objets sont donc des biens communs et les riches ne doivent pas avoir plus de privilèges que les autres. Il est toutefois insensé qu'une minorité vive dans l'excès et qu'une majorité vive dans la pauvreté. En effet, il est bien plus louable de faire du bien à de nombreuses personnes que de vivre dans le luxe. Il est bien plus raisonnable de dépenser sa fortune pour des gens plutôt que pour des pierres précieuses ou de l'or. » Amen. Et puis dans le livre, peut-être plusieurs ont lu, « La Suisse, Dieu et l'argent », il dit « Lorsque nous sommes libérés du superflu, nous sommes davantage aptes à suivre Jésus. » Alors, quelle influence, quelle place a l'argent dans ma vie? Est-ce que j'atteins la cible dans ce domaine? J'aimerais simplement prendre quelques instants de réflexion, que vous puissiez juste voilà, réfléchir à ça. Comment je pourrais aménager les choses? Et puis si je pourrais même voir si vraiment le travail est fait, je pourrais dire, qui c'est qui veut ce billet maintenant? Qui c'est qui veut ce billet de 100 francs? Puis la réflexion, c'est de dire, ok, est-ce que je veux parce que je peux toujours faire plus avec ce billet? Ou est-ce que c'est vraiment une nécessité? Est-ce que pour quelqu'un, ce billet est nécessaire ce matin? Oui? Ok, bien. Allez. Et sois courageux, Eric. Non, personne, c'est nécessaire pour personne. Voilà, on donne à celui qui est nécessaire, mais c'est son nécessaire, c'est pas un désir. Alléluia. On incline nos têtes, on réfléchit à tout ça. Dans la prière. Alléluia.